C'était il y a 50 ans, dans les nuits du 3 au 4 juillet 1976, l'opération Entebbe, un raid effectué par l'armée israélienne visant à libérer les otages dont l'avion avait été détourné en vol et amené à Entebbe en Ouganda par deux terroristes palestiniens du Front populaire de libération de la Palestine et deux terroristes allemands de la fraction armée rouge. L'invité de cette édition, Avi Pazner, ancien diplomate en poste à Washington, ambassadeur d'Israël en France, mais aussi dans plusieurs pays africains, parmi lesquels la République centrafricaine et le Kenya. Les archives ont été déclassifiées quant à Entebbe 50 ans après. Cette semaine, elle révèle que les dirigeants israéliens n'ont pas privilégié dès le départ une option militaire. Avi Pazner, qu'est-ce qui s'est joué dans cette décision d'aller vers une opération militaire finalement?
Écoutez, bien sûr, il y avait des hésitations parce que nos otages étaient détenus à 3000 ou 4000 kilomètres d'Israël, au cœur de l'Afrique. Et c'était très, très risqué, une opération extrêmement risquée d'aller chercher les libérer au plein centre, au plein cœur de l'Afrique avec des risques énormes. Et rappelez-vous, nous étions en 1976, il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes données technologiques et les mêmes capacités que nous avons aujourd'hui, par exemple. Et là, c'était un autre monde. Et il y a eu beaucoup de discussions au sein du gouvernement israélien, surtout entre Rabin, qui était Premier ministre, Shimon Peres, qui était ministre de la Défense. Et ils ont beaucoup hésité, et le chef d'état-major Montagour, lui aussi, était impliqué et ils ont hésité pendant des heures et même des jours jusqu'à ce qu'ils aient décidé de prendre la décision qui a donné le feu vert à cette opération qui, je crois, n'a pas de pareil dans le monde.
C'est une opération
j'ai jamais entendu. L'opération de libération, c'est-à-dire... Il a fallu envoyer toute une flottille d'avions d'Israël en Ouganda et ils n'avaient pas assez aussi, ils devaient se ravitailler en essence. Ils ont pu faire escale au Kenya malgré le fait qu'en ce temps nous n'avions pas de relations diplomatiques avec ce pays, mais ils voulaient nous aider, tout le monde voulait nous aider à libérer les otages qui avaient été pris par des terroristes palestiniens et européens, allemands aussi, et qui étaient détenus à Entebbe, à l'aéroport de Entebbe, détenus par les terroristes sous protection de troupes ougandaises, commandées par le maréchal Idi Amin, président de l'Ouganda, qui avait fait cause commune avec les terroristes et qui était connu pour son hostilité à Israël, qui avait rompu, d'ailleurs l'Ouganda avait rompu les relations diplomatiques avec Israël quelques années auparavant. Et Idi Amin était à la solde de la Libye, de Muammar Kadhafi, qui dans ces temps-là était très présente en Afrique et menait une ligne anti-israélienne extrêmement dure. Donc, c'est une opération extrêmement compliquée. Encore une fois, je vous dis, je n'ai jamais entendu parler d'une opération pareille, nulle part dans le monde, pas il y a 50 ans et pas il y a 50 jours. C'est un risque énorme qui serait là pris pour libérer nos otages, parce que nous plaçons, comme vous le savez, la valeur pour la vie humaine, au-dessus de tout. Et après de grands débats, de grandes discussions entre Rabin et Shimon Peres, à la fin, la décision a été prise par le gouvernement d'envoyer une flottille d'avions Hercules en Ouganda avec des troupes d'élite parachutistes et commandos israéliennes qui étaient dans ces Hercules, pour libérer les otages. Et les Ougandais n'ont pas compris ce qui leur arrivait. ils ont amené avec eux une Mercedes noire, comme la Mercedes du maréchal Idi Amin. Et le premier débarquement, c'était cette Mercedes noire. Alors les soldats ougandais ont cru que c'était le président Idi Amin qui arrivait, n'ont pas ouvert le feu. Et nos parachutistes et commandos ont pu s'approcher de l'aéroport, du terminal, là où étaient détenus tous nos otages, les Israéliens séparés des autres otages d'ailleurs. Et après un court combat contre les terroristes et aussi contre les soldats ougandais, de certains soldats ougandais qui ont commencé à tirer sur nos forces, eh bien, ce commando, composé de quelques douzaines de soldats d'élite, est parvenu à libérer nos otages, à les faire monter dans les avions Hercules, qui, encore une fois, ont volé de Ntebbe, de Kampala, jusqu'à Nairobi, au Kenya, où ils ont fait le plein d'essence, et sont retournés directement en Israël. Je crois qu'Israël, alors, a donné un exemple dans le monde comment l'on n'abandonne pas des otages, que la vie humaine de tout Israélien, de tout Juif, de tout chrétien, même de tout arabe, est au-dessus de tout face au terrorisme. Je crois que cette leçon a été bien comprise partout.
Je voudrais qu'on explore juste deux types de relations très liées à cet événement, celle entre Israël et l'Afrique. Vous dites qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques avec l'Ouganda, des soldats ougandais qui ont même tiré sur les forces israéliennes. Comment cette relation entre Israël et les pays africains, elle s'est tissée ? On a appris il y a quelques jours par l'ancien directeur du Mossad que c'est en Afrique qu'ils avaient créé un petit Téhéran pour s'entraîner. C'est une relation qui s'est construite autour de quoi ?
Israël avait de très bonnes relations avec l'Afrique depuis l'indépendance de ces pays au début des années 60. Moi-même, j'ai servi en Afrique comme diplomate israélien, en République centrafricaine et au Kenya pendant plusieurs années. Israël, dans les années 60, début 70, avait fait de gros efforts pour aider au développement des pays africains qui étaient devenus indépendants. C'est Golda Meir elle-même qui dirigeait ces opérations en Afrique parce que nous voulions briser l'isolement dans lequel les pays arabes tenaient Israël. Et Israël était extrêmement populaire en Afrique jusqu'au moment de la guerre de Yom Kippour. Et là, l'Égypte, qui fait partie de l'Afrique et des pays qui étaient réunis dans l'association africaine, a demandé à tous les pays qui avaient des relations avec Israël de les couper. Et à part quelques exceptions, tous les pays africains qui avaient été soutenus par les Israéliens pendant de longues années, où Israël avait fait un énorme effort pour enseigner l'agriculture, pour l'industrie, bâtir des hôpitaux, etc., etc., eh bien, presque tous les pays africains ont coupé leurs relations avec Israël. Donc, malgré le fait que nous n'avions pas de relations diplomatiques, mais nous avions d'autres relations qui étaient secrètes, comme avec le Kenya, nous avons réussi, justement, à ce que nous avions fassé escale à Nairobi et puisse revenir sains et saufs avec nos otages et les ramener en Israël dans un acte brillant, brillantissime, de courage, d'ingénuité. Encore une fois, je dis inégalé. Personne n'a fait une chose pareille, ni avant ni après. Et je me rappelle, j'étais alors aux États-Unis où je servais à l'ambassade d'Israël à Washington, et les États-Unis, justement, célébraient leur 200e anniversaire d'indépendance. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, ils célèbrent le 250e anniversaire. Alors, il y a 50 ans, ils célébraient le 200e anniversaire de leur indépendance. le président Gerald Ford, qui était alors président des États-Unis, le 4 juillet, parce que c'est le 4 juillet que ça s'est passé, a déclaré qu'Israël avait donné aux États-Unis le plus grand et le plus beau cadeau possible pour les États-Unis et pour l'humanité tout entière.
Toute dernière question, Avi Pazner, sur les relations entre la France et Israël à ce moment-là. On le rappelle, c'est un avion Airbus d'Air France qui effectuait un vol Israël-Paris. C'était deux approches différentes entre Israël et la France qui étaient matérialisées aussi par un rapport compliqué, indifférent, froid de Valéry Giscard d'Estaing.
Écoutez, ça fait malheureusement un bon bout de temps que les relations entre Israël et la France ne sont pas au beau fixe. Il y a eu des exceptions, bien sûr, quand Mitterrand était président, Sarkozy était président. Il y a eu des exceptions. On a eu de bonnes relations avec la France. Mais alors, en 1976, les relations n'étaient pas bonnes. Je crois que c'est Giscard d'Estaing qui était président alors. Il n'aimait pas particulièrement Israël. Et la France n'a pas aidé dans cette opération. Ce que vous dites est juste. C'est un avion d'Air France qui a été détourné à un vol d'Athènes avec Tel Aviv, avec une majorité d'Israéliens, mais aussi des Français, aussi d'autres nationalités, qui a été détourné par les terroristes qui l'ont accaparé après le départ d'Athènes. Et la France n'a pas fait grand-chose. Peut-être qu'elle est intervenue diplomatiquement avec l'Ouganda, ça n'a rien donné, mais c'est Israël qui a tout fait par elle-même, sans l'appui d'aucune puissance étrangère.